Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour cette nouvelle table ronde. Merci aux Imaginales d'avoir construit ce plateau autour de... Alors, on va parler de la fantaisie urbaine et de la bitlit. L'intitulé exact de la table ronde, c'est Fantaisie urbaine ou bitlit, une autre façon de raconter. Donc on a quatre auteurs qui vont nous dire pourquoi, enfin ce qu'ils pensent de ce genre et ce que ça permet de dire et en quoi ça peut être une autre façon de raconter l'imaginaire. Je vais présenter rapidement les gens qui sont à mes côtés. Alors juste à ma droite, Romain Duissier, donc vous êtes romancier, nouvelliste, rôliste, auteur de jeux de rôle. Et vous avez écrit, à partir de 2015, la trilogie Les Chroniques de l'étrange, qui est le deuxième livre ici, en tout cas, qui est donc trois tomes qui sont publiés au Chat Noir, si je ne dis pas de bêtises. Chez Critique, excusez-moi, ça commence bien. Et repris en poche chez Folio. Oui. Ah, ok, 1/2. Et donc Les 81 frères, puis La Résurrection du Dragon, et enfin Les Gardiens Célestes. Et donc cette trilogie, qui est donc une trilogie de fantasy urbaine, on va en reparler, mais donc reprend à la fois les codes du polar en les plongeant dans les mythologies ancestrales de Chine, à travers le personnage de Johnny Quan, qui est exorciste et enquêteur à Hong Kong. Juste à côté de vous, il y a Merope Malo. Vous avez écrit la trilogie L'Héritière des Raven chez Castelmore. Qui est donc autour du thème de l'apprentie sorcière, à travers le personnage d'Asia Raven qui découvre ses pouvoirs et qui va se réaliser comme sorcière. Et donc il y a trois tomes, Sorcière malgré elle, Sorcière en son temps et Sorcière à tout prix. Juste à côté de vous, Alison Germain, vous avez touché à beaucoup de choses, vous avez fait des études de lettres, vous avez été libraire jeunesse, vous êtes booktubeuse, donc pas mal de gens, je pense, vous connaissent aussi sous cette casquette-là, pardon, de Lily Bookin. Et vous avez publié en deux tomes Les Chroniques Homérides, au Chat Noir, pour le coup, cette fois. Donc en deux tomes, Le Souffle de Midas et L'Ultime Oracle, qui tourne là aussi autour du thème de la découverte de pouvoir, mais plutôt autour du thème du mythe de Midas. Et enfin, Xavier Mauméjean, vous êtes auteur, directeur de collection, préfacier, pataphysicien, auteur de pièces radiophoniques. Vous êtes l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, je pense, aujourd'hui. Moins ? Bon, on approche. Les derniers, en tout cas, alors effectivement, je ne vais pas faire toute la liste parce qu'il y en a beaucoup. Les plus récents, c'est notamment chez Alma, La Société des Faux Visages. American Gothic, qu'on a juste ici et qui explore le folklore et les mythologies américaines. Kafka à Paris également. Et puis, alors on ne l'a pas là, mais vous avez également écrit un très beau livre avec Didier Graffet. Vous commentez ses tableaux qui s'appellent Effluvium et qui est à la Bulle BD, que je vous encourage à aller le feuilleter tout à l'heure en sortant. Voilà, bon. Présentation un peu longue, mais vous avez fait beaucoup de choses. Donc on est là pour parler de fantaisie urbaine. Peut-être je vais commencer par une définition, et puis après vous me corrigerez si vous la trouvez trop réductrice ou si elle ne correspond pas exactement à ce que vous mettez dans le genre. Mais donc c'est un sous-genre de la fantaisie, et sa caractéristique, c'est que la magie se manifeste dans notre monde. Alors notre monde pouvant aller du 19e à aujourd'hui, et en général dans une grande ville, mais c'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même le cas la plupart du temps. Donc c'est voilà, des manifestations de la magie dans le monde réel dans lequel on vit ou dans lequel nos grands-parents et arrière-grands-parents ont pu vivre. Et la bitlit, qui est donc alors c'est un sous-genre de la fantasy urbaine. Alors c'est une invention des éditions Bragelonne, notamment pour définir toute la production du label Milady il y a quelques années. Et là, sa caractéristique, on peut dire que globalement, c'est de la fantasy urbaine, avec peut-être, on peut dire que c'est centré plus sur une héroïne qui est au cœur de l'intrigue. Alors, première question, d'abord, est-ce que ces définitions, ça correspond à ce que vous mettez dans le genre et à ce que vous mettez sous votre plume, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit finalement, j'ai rien à faire à cette table ronde, et c'est pas du tout, je me reconnais pas du tout là-dedans. Peut-être, Romain pour.
Alors moi, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que ça se passait dans une grande ville, et vous avez dit, mais c'est pas obligatoire. Or, pour moi, si un peu, en fait, puisque le nom, c'est quand même Urban Fantasy, et si on enlève, à mon avis, cette composante, on est plus finalement dans du fantastique contemporain, qui, pour moi, vraiment, l'Urban Fantasy, alors c'est une définition personnelle, c'est celle que je me suis forgée à travers certaines lectures et pour créer la mienne, c'est que la ville est plus qu'un décor, c'est vraiment un protagoniste qui va orienter l'histoire. Et au final, on aboutit à un portrait de cette ville, à son identité, à travers les aventures qu'on y raconte. Donc pour moi, la composante urbaine est vraiment très très importante. C'est peut-être ce qu'elle peut avoir en commun justement avec le polar, qui est souvent très lié à des villes criminogènes ou avec une ambiance particulière. Moi, c'est par cet angle-là que j'ai abordé en tout cas ma trilogie. Après,
Moi, je pense effectivement que pour moi, c'est plus de la fantaisie urbaine que de la bit-lite, parce que pour moi, la bit-lite, l'héroïne, en fait, elle est déjà en maîtrise de ses pouvoirs quand l'histoire commence. Ça fait vraiment pour moi la distinction entre bit-lite et fantaisie urbaine. Et moi, mon héroïne, elle ne sait même pas qu'elle a des pouvoirs, en fait. Donc voilà. Et en plus, souvent dans la bit-lite, les héroïnes sont indépendantes financièrement, elles ont un métier qui est en rapport avec la magie. Voilà. Donc c'est pas du tout le cas, effectivement, de mon héroïne. Pour la fantaisie urbaine, oui, avec cette petite nuance quand même que moi, enfin, ce que je lis souvent en fantaisie urbaine, c'est des villes un peu sombres. Ça se passe souvent la nuit, c'est des ambiances crépusculaires, des ruelles où il se passe des choses un peu sordides. Et pour le coup, moi, je voulais une ambiance très solaire et ça se passe en bord de mer. Donc, est-ce que c'est encore de la fantaisie urbaine au sens strict? Je ne sais pas, je pose la question.
Alors, moi, c'est plus. Moi, j'ai un petit problème, c'est que je n'aime pas beaucoup les genres. En fait, j'ai du mal à souvent à définir. Alors déjà, de base, ce que moi j'écris, je ne saurais pas dire si c'est l'urban fantasy, le fantastique. Enfin, c'est évidemment du fantastique, mais j'ai rarement mis les livres dans des cases. Bien que j'ai été libraire et qu'on aime beaucoup mettre les bouquins dans des cases ou en l'occurrence dans des rayons. Après, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai qu'urban fantasy, aujourd'hui, c'est un terme qui est beaucoup repris pour beaucoup beaucoup de choses, et c'est vrai qu'à la base l'urban fantasy au sens où on connaît au sens premier, c'est vraiment une fantasy qui se passe, enfin du fantastique qui se passe dans une grande ville. Effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Après, moi je dirais plutôt effectivement que mon roman est un roman fantastique au sens général du terme, parce que mon héroïne, déjà, ça se passe en Cornouailles dans une toute petite ville, donc effectivement je suis pas sûre que ça corresponde, surtout qu'elle voyage énormément, donc la ville ne fait même pas partie réellement de l'intrigue, enfin du moins pas dans le tome 1, parce que dans le tome 2, pour le coup, il y a une ville qui est réellement un personnage à part entière. Voilà, après, comme je dis, j'aurais bien du mal à dire si oui ou non c'est de l'urban fantasy.
Alors, il y a une autrice américaine qui s'appelle Delia Sherman, qui est grande romancière, qui a dit un jour, la ville est la nouvelle forêt. Et je trouve que ça résume très bien, oui voilà, c'est magnifique. C'est-à-dire que une impasse, un coin de rue, une venelle peuvent devenir aussi inquiétants et aussi étranges que pouvait l'être une forêt au Moyen-Âge. Et donc je pense qu'effectivement, ce qui caractérise l'urban fantasy, et on pourra en parler la bit-lite, c'est l'environnement urbain. Par exemple, il y a une magnifique nouvelle d'Harlan Ellison où il y a une jeune femme qui se fait, on ne sait pas, en tout cas elle en meurt, mais on ne sait pas ce qui se passe. Et ça se passe dans une cour d'immeuble à New York, à Brooklyn plutôt. Et en fait, les gens sont à la fenêtre et ne bougent pas. Et c'est cette horreur et cette inquiétude, elle est propre à la ville justement. Et je pense qu'une grande part de l'origine de l'urban fantasy, le fait que l'horreur et l'étrangeté se déporte vers la ville vient de ce qu'on a appelé la psychogéographie. Par exemple, Neil Gaiman ou Alan Moore sont des gens qui ont beaucoup lu dans ce domaine. Et c'est cette idée que chaque ville a un profil, a un type. Par exemple, Chicago, c'est le froid, à un moment, c'était l'acier, le charbon, etc. Et que donc chaque ville va, selon ses caractéristiques, influencer ses habitants de la même façon que des globules ou des anticorps sont les anticorps de tel ou tel organisme. C'est-à-dire que les habitants vont faire partie d'un corps. En sens, la ville est un personnage à part entière, tout comme dans un organisme vivant, il y aurait des mini-corps qui se baladeraient. Donc les artères, les boulevards sont l'équivalent de réseaux veineux, artériels, etc. Et je pense que effectivement, il y a une grande part d'un nouvel imaginaire qui vient du fait que c'est spécifiquement urbain, et même plutôt urbain 19e, 20e. Il faut que la ville soit déjà assez moderne et contemporaine.
Alors justement, dans les quatre livres en question, donc chez vous, Romain, ça se passe à Hong Kong. Vous avez choisi plutôt les villes, mais pas que les villes. D'ailleurs, il y a aussi un peu la campagne américaine dans American Gothic. La Cornouaille, on en a parlé. Et vous, Méropé, c'est une ville qui n'est finalement pas située, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais on l'imagine plutôt peut-être aux États-Unis ou...
Alors, dites...
En fait, j'ai choisi d'appeler ma ville Ismans. La racine Is, c'est une racine bretonne, la ville d'Is. Voilà. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment situé en France. Et d'ailleurs, l'héroïne arrive avec... elle a son bac en poche, hein, donc on est vraiment... voilà. Au niveau de la ville, elle n'existe pas, mais pour moi, c'est une sorte de mixte entre, on va dire, Marseille et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, même si les gens de ces villes seraient horrifiés d'entendre ça, peut-être, mais parce qu'en fait, c'est quand même une grande ville, mais c'est sur l'océan Atlantique, et donc parce qu'il y a des personnages magiques qui sont liés à la mer dans la trilogie, donc c'était important pour moi d'avoir une ville en bord de mer.
Mais du coup, alors, dans ce cas-là, donc, on est sur une ville fictive, mais qui est un mélange plutôt de villes françaises. Mais dans les trois autres cas, on est plutôt sur un imaginaire qui tire vers l'étranger. Est-ce que l'urban fantasy s'épanouit mieux sous d'autres cieux ou...
Là, ça dépend de la sensibilité de l'auteur, quelque part. À quoi il se sent Moi, en tant que Français, j'ai toujours vécu dans des petites villes ou à la campagne. Donc c'est pas un environnement qui me parlait forcément. J'ai jamais vécu à Paris, à Marseille ou à Lyon, qui sont peut-être les grandes métropoles françaises qui auraient cette taille critique leur permettant d'acquérir une sorte d'âme et d'identité. Et puis depuis l'enfance, je suis passionné par la Chine. Donc au moment où j'ai voulu vraiment tracer de l'urban fantasy, il fallait que je m'oriente vers quelque chose qui me parle plus. Et Hong Kong était extrêmement intéressante, puisque c'est une ville qui est tout le temps à cheval, surtout. Elle est à cheval entre les anciennes traditions et la modernité la plus moderne. Hein. Vraiment, c'est la ville dont on sert quand on veut faire un environnement cyberpunk. Ghost in the Shell, si vous regardez le dessin animé ou le film récent, c'est des rues, des quartiers entiers de Hong Kong qui sont utilisés. C'est pas du tout Tokyo, c'est Hong Kong. Donc c'est une ville qui est entre le passé et l'avenir. C'est une ville qui est entre l'Orient et l'Occident, puisque c'est une ville chinoise à la base, qui a été colonisée par l'Angleterre, qui a ensuite été rendue à la Chine. Mais ils ont gardé extrêmement le libéralisme, la liberté anglo-saxonne. Donc ils le vivent un peu mal d'ailleurs en ce moment d'être restreint. C'est une ville qui est une ville portuaire également. Donc elle est à cheval entre le continent asiatique énorme et l'océan Pacifique. Donc c'était vraiment très intéressant et forcément je m'y suis plongé à fond puisque grand fan de cinéma hongkongais, justement, je voyais la ville, pour moi elle était très cinégénique et si on mêlait là-dedans donc la composante fantasy de l'urban fantasy, c'est-à-dire si on mimait des dragons, des esprits renards, des choses comme ça, pour moi ça devenait passionnant en tout cas. Donc voilà pourquoi j'ai préféré m'orienter ailleurs, c'est pas par anti-chauvinisme ou autre.
Ah, en Cornouaille. Alors moi, la Cornouaille, c'était vraiment... c'est anecdotique au départ, le choix de la Cornouaille, parce que j'ai commencé à écrire le roman, j'étais en Cornouaille, j'étais jeune fille au père là-bas. Et puis, elle voyage assez rapidement, elle bouge pas mal en Europe notamment, pour atterrir justement à Delphes, où va se passer le tome 2. Et donc, je dirais plus que c'est Delphes, en fait, le réel... Enfin, la ville qui peuple vraiment mon histoire. Enfin, c'est Delphes et surtout une ville fictive que j'ai imaginée juste à côté de Delphes et qui reprend un petit peu les codes des cités antiques. Et oui, là, pour le coup, je me suis réellement servie d'un peu tout le folklore, un peu toute... je sais pas, cette ambiance qu'il y a à Delphes, notamment, et dans les villes antiques, en tout cas dans mon imaginaire à moi. Comment je les représente, comment je les imagine, etc. Et pour le coup, effectivement, plus que dans le premier tome, la ville a un réel impact sur mon personnage et sur... l'intrigue est vraiment centrée sur cette ville-là. Après, le choix de la Cornouaille, c'était vraiment le choix du cœur, pour le coup. Voilà.
Sur Delphes, par exemple, un jour, j'étais à Delphes, il était 6h du matin, j'étais sur le site sacré, il n'y avait personne. Et il faut savoir que sur le site de Delphes, quand il y avait la pitié, il y avait deux sources de purification à passer. Et je me suis rendu compte, imaginez, le soleil se lève sur le site, il n'y a personne. Et à la première source d'Apollon, il y avait du papier d'aluminium avec des petites pièces et des bougies. Et je me suis rendu compte que, en fait, il y a toujours un culte d'Apollon à Delphes. C'est magnifique. Hein. Et donc... c'est cette idée, je ne suis pas du tout en train de prendre le film, mais qu'il y a un imaginaire qui est propre aux cités. Quoi, c'est-à-dire que la fantaisie urbaine, elle est certes beaucoup illustrée au XX et XXIe siècle, avec Gaiman, Moore ou par exemple le mien, mais je pensais par exemple en écoutant que, par exemple, Game of Thrones, on va pas y couper, mais il y a une dérive qui est très intéressante, hein, c'est pas du tout une critique, et je vais pas spoiler, hein, s'il y a des gens qui n'ont pas vu, mais il est intéressant quand même que dans une fantaisie traditionnelle, l'objet, ça aurait été soit un objet, proprement dit, le trône ou l'anneau pour Tolkien, soit un royaume. Et c'est intéressant de savoir que il y a une espèce d'effet feedback de la fantaisie urbaine sur la fantaisie traditionnelle. Et dans Game of Thrones, le véritable enjeu, maintenant, c'est une ville. C'est prendre une ville. C'est plus prendre la couronne de tous les royaumes. C'est plus imposer sa famille. Ce sera décidé lorsqu'on aura pris une ville. Et je pense que c'est effectivement, quels que soient les genres littéraires qui sont largement représentés ici, cette idée que la ville en elle-même... elle renouvelle l'imaginaire. Et au fait, Paris, il y a des choses quand même. Hein. Hervé Joubert. Oui.
Alors, justement, vous avez choisi les États-Unis. On dit souvent que la nuit des États-Unis est vide. En tout cas, il y a moins de mythes, puisque c'est un pays jeune, forcément. À la différence, effectivement, de la culture chinoise millénaire, ou de Midas et de Delphes, ou même vous, Mérope, où il y a effectivement où il y a les Néréides, enfin, vous inscrivez dans des mythologies, ou la sorcellerie, des choses plus antiques. Et vous, Xavier, vous avez choisi un pays où il y a moins de contes, pour finalement, vous avez bâti un peu, vous avez rempli le vide en créant une mythologie dédiée. Quoi.
Ben, en fait, j'en ai inventé, mais pas tellement. Ce qui m'a intéressé, justement, c'est que c'est un pays jeune. C'est rarissime de voir un pays en train de se construire. Et c'est un télescopage à un moment donné entre l'imaginaire des natifs, des Amérindiens, qui est extrêmement riche et très différent du nôtre. Par exemple, Coney Island, c'était le lieu sans ombre. Il était tellement sombre qu'il n'y avait pas d'ombre. C'est magnifique, ça. Bon. Donc, il y avait cet imaginaire amérindien et les puritains qui sont arrivés à Boston avec Cotton Mather, le chasseur de sorcières, qui brûlait des sorcières. Et Cotton Mather a été le révérend qui a marié Elizabeth Goose, qui est l'auteur des Tales of Mother Goose, des contes de ma mère Loi. Et je me suis dit, oh, c'est génial, d'un côté on a une espèce de tueur de sorcières, ce qu'il était, hein, il était terrifiant. De l'autre, on a cette charmante jeune femme qui écrit des contes, et ce sont des contes en fait extrêmement cruels. Et tout ça est vrai, hein, j'invente rien. Si je peux ne pas inventer, ça m'arrange en fait. C'est moins de travail, ce qui n'est pas vrai. Hein. Et donc, au contraire, justement, c'est la richesse de la nouveauté qui arrive d'Europe, mais qui est religieuse et sévère, et au contraire, cet imaginaire totalement différent, qui est celui des Iroquois notamment, qui m'a intéressé. Mais ça brasse large, hein, ça brasse 300 ans pratiquement d'Amérique.
Alors, peut-être un autre point qui, à mon sens, réunit vos différents livres et peut-être la fantaisie urbaine, c'est que la magie, elle est présente, mais elle est souterraine. C'est-à-dire que c'est pas, il y a pas des dragons qui se baladent dans la rue et puis tout le monde trouve ça normal, etc. Enfin, il y a plein d'autres littératures qui font ça. Dans le cas de vos livres, la magie existe. Il y a des gens qui la pratiquent, il y a des gens qui y sont confrontés. Et puis la majorité des gens passent à côté sans imaginer, y compris d'ailleurs dans votre cas les deux héroïnes au départ quand même, s'il y a même une forme de résistance quand elles découvrent un peu cet univers-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui peut être aussi constitutif, ce frottement entre d'un coup l'émergence d'un monde souterrain, et est-ce que c'est ça qui vous intéressait Alors vous, dans votre cas, Romain, bon, on est sur un personnage d'exorciste qui lui évidemment est initié, mais on croise aussi des chauffeurs de taxi et des gens qui sont pas forcément... alors, bon, même si on a l'impression qu'à Hong Kong, l'improbable paraît moins choquant peut-être que dans des villes européennes, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait plus que de la fantaisie pure, en disant bah, finalement on met des nains, des dragons, des licornes et tout le monde cohabite?
C'est vrai que dans le cas de Hong Kong, on est peut-être dans un cas un tout petit peu différent. C'est vrai que la majorité de la population, en fait, sont des gens voilà, comme vous et moi. Mais la différence énorme entre États-Unis, Europe et cette partie de la Chine, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas eu d'évangélisation. Donc leur folklore, leur religion originelle n'ont jamais été balayées par une croyance dogmatique qui s'est importée. Les Hongkongais sont taoïstes, bouddhistes, ils piochent dans tous les courants qu'ils connaissent, des vieilles croyances animistes même, liées à l'histoire de la Chine du Sud. Et donc les gens là-bas, ils y croient en fait à ces histoires-là, comme des chrétiens croient en l'ascension de Jésus, etc. Pour eux, il y a bien des dragons qui vivent au large de Hong Kong, il y a bien des animaux qui peuvent un peu se transformer en humains. Alors ils y croient comme une superstition, mais quand même. Voilà, qui peut avoir son truc. Donc, il y a un quartier à Hong Kong qui s'appelle Wong Tai Sin, qui est vraiment le centre religieux, qui est plein de temples. Et vous allez y croiser un homme d'affaires qui va aller brûler de l'encens à la veille de conclure un contrat. Parce qu'il se dit, je vais me concilier les dieux. Vous avez une grand-mère qui va aller prier dans un temple ou consulter un devin pour savoir si son petit-fils va réussir ses examens. Donc, il y a toujours tout ça. Et finalement, dans mon roman, je ne fais que réellement, rendre réel en tout cas, ces croyances et superstitions. Donc les habitants de Hong Kong y croient, ils y croient par la bande en fait. Effectivement, ils ne croisent pas les dragons dans la rue ou autre, alors que le héros, lui, il est dans la deuxième couche et il sait que vraiment, ces croyances sont vraiment, vraiment réelles. Alors ce sera en gros la différence entre une communauté chrétienne qui croit en Dieu dans les anges et puis un prêtre exorciste qui croise des vrais anges et qui combat des vrais démons, quoi. Mais la société chinoise n'est pas athée du tout, contrairement à ce qui peut être le cas en Occident. Donc c'était aussi un des points qui m'intéressait. Effectivement, ces deux couches en fait, de croyances, l'une n'étant que l'approfondissement de l'autre, et le fait qu'il ne puisse pas y avoir de négation de surnaturel. Donc effectivement, un citoyen lambda de Hong Kong va peut-être être moins étonné de voir quelque chose d'ouvertement mystique qu'on pourrait l'être nous en tant qu'Européens dans nos villes. Donc oui.
Oui, la question du secret, effectivement, dans ma trilogie, elle est fondamentale. En fait, l'héroïne, au départ, elle-même, elle ne sait pas qu'elle est sorcière, puisque le tome 1 s'appelle Sorcière malgré elle. Donc en fait, l'héritage va lui tomber dessus, un héritage magique. Et la question du secret, c'est aussi en fait la question de sa filiation, dans la mesure où les Raven donc habitent cette ville depuis très longtemps et elles se sont construites dans le secret. Elles ont grandi avec la ville, on va dire. Et en fait, il y a une scène où on va dans les égouts et en fait, on voit les fondations un peu magiques de la ville. Et en fait, ce sont ses ancêtres qui ont poser ces fondations-là. Donc effectivement, on est tout à fait dans le souterrain, dans le secret, et elle, son problème à Asia, c'est que mon héroïne, c'est que comme elle ne maîtrise pas ses pouvoirs au début, elle a peur que ça explose et qu'il y ait des étincelles partout et qu'on lui dise qu'est-ce qui s'est passé, etc. Est-ce que la magie, tout d'un coup, peut être visible? Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer que les sorcières, c'est pas du tout des gens avec des baguettes magiques, parce que c'est pas du tout discret, une baguette magique. Donc en fait, les ancêtres de sa famille, notamment les femmes, elles avaient par exemple ensorcelé un dé magique si elles étaient couturières, et donc du coup, c'était beaucoup plus discret. Donc voilà, il y avait toute cette question du secret et du souterrain qui sont effectivement importantes pour moi.
Alors pour moi, c'était plutôt le côté... Alors mon héroïne, elle effectivement est totalement étrangère d'abord à tout ce monde mythologique. Enfin, elle connaît la mythologie comme vous et moi, comme tout le monde, mais elle n'avait pas conscience de ces fameux héritiers d'Homère qui sont gardiens donc, du pouvoir des dieux, dont elle fait partie, puisqu'elle a le gène, hein, c'est génétique. Et donc ça lui tombe un peu dessus, comme ça, totalement par hasard. Et ce qui m'intéressait surtout là-dedans... C'était un petit peu ce format un peu récit initiatique où elle allait apprendre en fait sur elle-même, sur ses pouvoirs. Évidemment, elle apprend à s'en servir au départ, effectivement, un peu comme toi, elle est complètement paniquée par rapport à ça. Donc elle touche en fait, tout ce qu'elle touche se change en or. Donc il va falloir qu'elle apprenne à maîtriser ce don qu'elle pense être une malédiction au début. Donc vraiment dans le tome 1, on est vraiment dans ce côté un peu initiation et j'avais envie vraiment de... Je me suis dit en fait, quand je l'ai écrit, je me suis vraiment mis à la place de mon personnage en me disant, voilà, si ça m'arrive à moi ou si ça arrive à quelqu'un comme moi, en fait, comment est-ce que je réagis? Donc c'était vraiment ça qui m'intéressait dans l'écriture. Donc ça, c'est vraiment toute la construction du premier tome. Et dans le second tome, elle va en fait rencontrer d'autres héritiers d'Homère qui ont d'autres pouvoirs, dont effectivement la pitié, qu'on voit un petit peu dans le premier, mais qui est beaucoup plus présente dans le tome 2. Et découvrir toute cette communauté et comment est-ce qu'ils vont vivre en fait dans notre monde à nous, cachés effectivement dans cette ville qui est Estiapolis, voilà, juste à côté donc du sanctuaire de Delphes. Voilà.
Et du coup, alors c'est vrai que comme on est à la frontière entre notre monde réel et un monde magique, il y a aussi des points de frottement, moi je trouve intéressant dans vos différents livres. Par exemple, Romain, il y a un moment donné où il y a un assassinat qui s'organise, qui va être commis par un démon, mais simplement l'arme du crime, le démon c'est un sniper en fait. Donc on est typiquement à la frontière entre... voilà, la mythologie ancestrale est en même temps une arme extrêmement moderne où il y a cet appareil photo l'exorciste a un appareil photo qui l'a enchanté pour, mais qui est un canon qu'on a tous mais qui lui permet de voir des choses que les autres ne voient pas ou parfois il y a aussi des héros qui ont des pouvoirs qui sont des... Asya par exemple elle est hackeuse et ça lui sert presque autant que ses talents qu'elle met, enfin, en tout cas elle les maîtrise beaucoup plus, elle est beaucoup plus à l'aise avec son clavier qu'avec ses pouvoirs naissants. Est-ce que du coup ce clash entre aujourd'hui et des mythologies beaucoup plus ancestrales, ça permet aussi de dire des choses différentes ou...
Oui, en fait en Chine, la magie, si déjà qu'ils n'appellent pas comme ça, hein, ça ils n'ont pas de terme exact pour parler de magie, ça, c'est une science. Depuis le début, le feng shui, c'est une science architecturale. Et même de nos jours, à Hong Kong, on ne peut construire aucun bâtiment sans avoir l'aval d'un géomancien. Donc il y a des cabinets de géomanciens hein, qui sont des hommes d'affaires, mais qui mesurent les souffles, interrogent les dragons pour savoir si... le bâtiment qu'ils construisent va être harmonieux. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que si vous regardez des fois la photo du front de Hong Kong, le front de mer, vous voyez un bâtiment qui est tout pointu, dont toutes les fenêtres sont des triangles hyper pointus, ce qui n'est pas du tout feng shui. Et ça, c'est la Bank of China, c'est-à-dire c'est la Chine communiste qui a imposé de construire ce building-là, juste pour dire à Hong Kong, on vous emmerde avec vos traditions, vous êtes à nous maintenant, et on fait ce qu'on veut. Donc, et ça a énormément heurté les Hongkongais. Ça a détruit le feng shui de leur skyline. Et ils étaient extrêmement vexés de ça, mais ils ne peuvent rien faire. Quoi. Donc, comme c'est une science depuis le début, leur magie, ça me paraissait logique que les personnages qui sont des gens de maintenant, le héros, c'est un homme voilà, d'une trentaine d'années, moderne. Du coup, il va utiliser des instruments de son temps, qu'il va améliorer avec ses connaissances magiques. Par exemple, les anciens exorcistes, pour repérer un fantôme, ils utilisaient une boussole dont l'aiguille était enchantée pour pointer vers les sources d'énergie yin, qui sont les énergies voilà, des esprits défunts, du surnaturel. Et ben, notre héros, lui, il utilise un GPS, tout simplement. Comme ça, il voit, ça fait bip, là où il y a un fantôme, c'est beaucoup plus simple. Donc ce mariage me paraissait tout à fait naturel. Et comme je disais, comme Hong Kong est toujours un pont entre ces diverses traditions et ces tendances futuristes, ça me paraissait totalement logique, puisque comme je disais tout à l'heure, dessiner le portrait de la ville par les personnages, par leurs aventures, c'est vraiment ce qui m'intéressait. et du coup faire passer cette nature duale de la ville par les équipements des personnages, leur langage, etc. Ça rentrait parfaitement là-dedans.
Oui, alors c'est vrai que la confrontation, ça me paraissait très intéressant entre le personnage traditionnel de la sorcière, bon, qui est un personnage très très riche, on va dire, dans ses formes, mais on a souvent un peu l'image de la sorcière dans la forêt, un peu à l'écart de la civilisation, du village et tout ça. Et moi, je voulais au contraire la mettre complètement dans notre monde, dans la ville. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a, elle, au départ, comme identité qui va venir se confronter à celle de la sorcellerie. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Lisbeth Salander dans Millennium. Et donc, je me suis dit, voilà, si elle avait des pouvoirs, bon, moins importants quand même que Lisbeth, qui est vraiment hyper forte comme hackeuse, mais quand même, si elle avait déjà cette affinité, on va dire, avec la technologie, qu'est-ce que ça donnerait si tout d'un coup, bim, elle avait des pouvoirs de sorcière qui lui tombaient dessus. Et du coup, on passe de sorcière Magrelle à sorcière à tout prix. Donc effectivement, elle va vraiment prendre possession de ses pouvoirs. Mais au départ, c'est difficile. Au départ, quand elle est dans une pièce magique, son téléphone ne marche pas. Enfin, y a débat entre la technologie et la magie. Et ça m'amusait aussi parce que je trouvais ça intéressant. Et donc voilà, ouais, cette confrontation, elle m'amusait. Ça me permettait pour moi, de redynamiser un peu le personnage de la sorcière, quoi, en fait.
Alors moi, c'est surtout que je me suis amusée, en fait, justement, avec un peu les technologies. Et notamment, il y a une scène au début du premier tome où, en fait, elle recherche la personne qui lui a transmis son don, qui a disparu mystérieusement. Et en fait, elle fait avec les moyens du bord, en fait. Je vous ai dit, je me suis mis vraiment à sa place pour savoir voilà, les moyens que j'aurais moi utilisé dans cette situation. Et elle fait tout simplement, pour faire un portrait robot, elle utilise donc le jeu des Sims pour en fait recréer le visage de la personne qu'elle a cru voir. Et effectivement, j'essaie d'inclure un petit peu comme ça ce côté très moderne aussi qu'il y a, alors, plus dans le premier tome je pense que dans le second, mais parce que tout simplement c'est une jeune fille de maintenant et qui utilise des outils de maintenant, et qu'effectivement certes sa vie a changé à cause de son pouvoir, mais tout ce qu'elle a appris et tout ce qui fait sa personnalité jusque-là n'a pas disparu. Et d'ailleurs, c'est assez je me suis amusée aussi à faire une scène dans le tome 2 où justement elle retrouve son téléphone portable et qui soudain en fait elle le regarde, et c'est devenu très superflu pour elle, comme si en fait elle l'avait pas vu depuis 100 ans et qu'elle ne savait plus se servir de cet objet-là. Donc voilà, je me suis amusée surtout à faire ce parallèle-là entre la magie et puis la technologie. Voilà.
Alors, sur la confrontation, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est alors moi, dans de nombreux romans, je mets en scène une ville. En fait, je pense que dans chaque, j'étais en train de réfléchir. Mais dans un particulièrement qui est Lilliputien, en fait, je suis parti d'un fait réel qui est que à la fin du 19e siècle, début 20e, à la pointe de Manhattan, on a construit un parc d'attractions où, notamment, il y avait une ville, c'est authentique, hein, ça, de ce qu'on appelle des nains parfaits, c'est-à-dire des lilliputiens, des petits à bonne mesure, à bonne proportion. Et j'avais lu que dans cette ville faite à leur échelle, donc il y avait 200 habitants, c'est énorme, hein, 200 lilliputiens, hommes et femmes. Il y avait une compagnie de pompiers, donc nains, qui éteignait tous les jours, environ 10 fois par jour, des incendies, mais eux qui n'étaient pas nains. Et je me suis dit, c'est une magnifique contrainte littéraire. Imaginez un personnage qui vit en sachant qu'à bout de chaque heure, il doit éteindre un incendie. Donc ça, c'était intéressant. Et j'ai voulu y mêler, en faisant des recherches, je me suis rendu compte notamment qu'il y avait un monstre dans le parc d'attraction qui ressemblait à un minotaure, donc c'était rêvé. Donc j'ai voulu y mêler tous les mythes antiques. Donc il y a la guerre de Troie, il y a les gorgones, etc. En mêlant les vrais monstres et cette cité, et en imaginant que les gens qui dirigent le parc, en fait, depuis Manhattan, depuis un building, sont l'équivalent des dieux de l'Olympe. Et donc les petits, c'est nous. Et effectivement, là, c'est un télescopage des deux. Mais je voulais aussi indiquer, hors les productions ici, parce qu'il est question de fantaisie urbaine et de bitlit, et je pense que les lecteurs de Babelio l'ont repéré depuis longtemps, c'est Meg Cabot, qui est une autrice américaine, qui fait de la littérature générale comme... qui tend vers Sex and the City, ou alors... pour les ados qui sont très réussis, Princesse Malgré, voilà. Et et qui fait aussi d'excellents livres relevant de l'imaginaire, comme Missing, qui est une jeune femme qui, en voyant des photos d'enfants disparus sur les cartons de lait, les identifie où ils sont, aussi une jeune fille, femme, qui a comme colocataire un mort, etc., et qui ose des choses qui relèvent, mais exactement... ça, c'est, je conseille vraiment Meg Cabot, elle est très talentueuse et elle écrit dans une quantité de domaines qui se complètent en fait. Voilà.
Alors, il y avait moi un thème qui m'intéressait aussi, c'était le fait que, alors après ça dépend un peu hein, selon les quatre, mais que bien souvent dans la fantasy urbaine, la magie elle est cachée. Enfin, elle est souterraine, disons, pas forcément parce qu'elle est cachée, mais souvent parce qu'elle est oubliée aussi. C'est aussi parce que on est dans un monde scientiste, de technologie, et finalement, pour reparler de la ville et la forêt, on est dans un monde où la ville a un peu gagné sur la forêt aussi, quoi. Et la fantaisie urbaine, c'est aussi un peu une revanche de la forêt, où d'un coup, les racines percent le macadam et on retrouve cette magie qu'on avait un peu oubliée. Et notamment, alors bon, on a vu que dans le cas de Hong Kong, effectivement, ça, pour le coup, c'est un lien qui n'a jamais été vraiment perdu, puisque y a toujours cette passerelle qui, même si on dit que c'est de la superstition, etc., reste peut-être plus présente. Dans nos villes occidentales, en tout cas, c'est quand même. Les églises sont vides et les superstitions sont quand même un peu derrière nous. Mais du coup, dans votre cas, à vous, Xavier, vous prenez les États-Unis qui est un monde jeune. Où finalement on aurait pu imaginer que les États-Unis se construisent sans imaginaire, c'est-à-dire que sans forêt, sans poids des mythes, et en même temps, est-ce qu'il y avait un vide à combler? Est-ce qu'on a forcément besoin de cette part d'imaginaire? Est-ce que de toute façon elle est incontournable, puisque finalement un pays qui a 300 ans ou 400 ans, 300 ans plutôt, on pouvait imaginer qu'il n'y ait pas d'imaginaire américain?
En fait, l'imaginaire américain, il est comme un patchwork, il est composé de l'imaginaire slave, italien, séminole, apache, chinois, wasp. Et en fait, il fusionne en plus progressivement, c'est-à-dire que dans un premier temps, il est cantonné à la côte est, donc on parlait de la Boston puritaine, donc ça détermine quand même déjà un certain imaginaire. Fait d'être dans une ville contrôlée par les puritains, et puis on a cette espèce de vaste étendue de terra incognita qui est le devenir jusqu'à la côte ouest, et donc cet imaginaire il va se diffuser un peu comme de l'encre dans de l'eau jusqu'à la côte ouest, il va s'adapter, absorber, changer en fonction de toutes ces cultures qui se croisent ou se détruisent même, hein, etc. Et c'est ça qui m'intéressait. Et puis alors, il y a un effet retour, mais on n'aurait pas le temps, c'est à partir des années 20-30 aux États-Unis, il y a un grand retour de la sorcière, mais urbaine. Donc c'est une sorcière en général qui a la peau blanche, qui a les cheveux très noirs ou rouges, etc. Et qui vit à New York ou à Chicago. Il y a beaucoup de romans là-dessus. Et qui petit à petit va être désamorcée pour donner lieu à ma sorcière bien-aimée qui est blonde et femme au foyer. Et il y a une espèce comme ça dans l'imaginaire américain de débordement de rage et de violence, parce qu'il peut être très violent l'imaginaire américain, et en même temps une espèce de contrôle via la télévision et via le cinéma. Autrement dit, deux moyens où les images sont imposées, ce ne sont pas les images que vous vous créez, ce sont des images qui ne sont pas intérieures, mais qui sont extérieures. Il y a une espèce comme ça de contrôle, de diffusion et en même temps rétention de l'imaginaire américain.
Et dans votre cas, tous les trois, c'est vrai qu'on part d'un imaginaire. On pourrait imaginer que finalement, il y a le monde réel tel qu'il est, et puis que vous inventiez une mythologie ex nihilo qui, d'un coup, vit de manière souterraine. Dans les trois cas, vous avez puisé dans des mythologies existantes, souvent ancestrales. Est-ce que c'était important pour vous de repartir de grandes figures de l'imaginaire, soit oriental, soit grec, soit plus de la sorcellerie classique?
Je dirais comme Xavier qu'à un moment, quand les choses existent et sont déjà si riches, pourquoi les inventer, quoi? Je pense pas à moins vraiment d'être un génie à la Tolkien, je ne pense pas, moi, pouvoir créer une mythologie aussi riche que l'empilement de millénaires de croyances chinoises qui ont bouillonné tout ensemble sous diverses dynasties. Donc, non, je vais pas me confronter à quelque chose d'aussi énorme, et je vais plutôt le recycler, moi, à ma façon, avec ma vision, plutôt que d'essayer de faire quelque chose qui sera moins bon, de toute façon. Mais je reviens sur justement ce que Xavier a cité au début sur le fait que vous venez de réévoquer que la forêt, enfin la ville est la nouvelle forêt. Et du coup, ça me frappe qu'effectivement, c'est très pertinent dans mon cas, puisque en Chine, il y avait deux sociétés. Il y avait la société impériale, c'est-à-dire les citoyens normaux qui vivaient, voilà, qui faisaient leur métier, passaient les concours, etc. Puis il y avait ce qu'on appelait le Jianghu, qui est la société en fait des marginaux, les artistes martiaux, les prostituées, les baladins errants, ce genre de choses, qui vivaient eux en marge, qui faisaient des métiers, on va dire, pas très glorieux, pas très glorifiés, et qui du coup vivaient, Jianghu signifie littéralement lacs et forêts, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans les campagnes. Si certains connaissent le grand roman chinois Au bord de l'eau, qui est un grand roman de chevalerie, les 108 brigands qui en sont les héros, qui pour le coup s'opposent vraiment à l'Empire, vivent dans un marécage. Ils ont fait leur camp, qui est une petite ville, dans un marécage. Donc ils sont des gens qui vivent dans les forêts, autour des lacs, sur les rivières. Et du coup, à Hong Kong, mes héros sont l'équivalent de ces gens, de ces anciens chevaliers, puisqu'ils vivent en marge de la société hongkongaise, mais qui est aussi une forêt. Une forêt urbaine, une jungle urbaine même, puisqu'on est sous les tropiques. Donc ouais, ça se rejoint vraiment bien, quoi. Du coup, vraiment, cette citation, elle est brillante. Elle est vraiment brillante, ouais, j'avoue.
Oui. Non, sur la question de la reprise des mythes, hein, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on a des mythes qui sont très riches. Moi, j'ai beaucoup grandi avec la mythologie grecque, et c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri dans mon adolescence, plus que d'autres mythologies peut-être. Et ça m'intéressait de m'intéresser aux mythologies de personnages aquatiques. Donc, en fait, l'héroïne découvre que son petit ami lui-même découvre qu'en fait, il est le fils d'une Néréide. Et donc, ça m'intéressait parce que ce n'est pas un personnage qui est extrêmement utilisé, les Néréides, de ce que j'ai pu lire en tout cas. J'utilise aussi le personnage de la sirène, qui est un personnage pas du tout sympathique dans mon roman, hein, parce que les sirènes originelles, elles s'étaient mi-oiseau, mi-femme, et elles entraînaient les marins dans l'eau et elles les mangeaient. Voilà, donc on est loin de la petite sirène de Disney, clairement. Donc moi, c'est un personnage mi-poisson, mi-femme, mais elle est pas du tout sympathique, et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de remettre la dureté aussi des mythes originels.
Bah, même chose, hein, on va dire, pour être original. C'est vrai que j'étais aussi, moi, passionnée par les mythologies en général, mais effectivement, la grecque en particulier. Et dans mon histoire, en fait, on a l'héritage, en fait, de ces anciens dieux qui n'ont plus de culte. Enfin, clairement, ils sont déchus, plus personne ne croit en eux, et on a un peu comme les restes de leur pouvoir dans donc cette communauté d'Homérides qui possède donc le gène d'Homère. Ils sont à peine un millier sur Terre, et c'est un petit peu tout ce qui reste, en fait, de la gloire de l'Olympe antique. Effectivement, moi, je me suis un peu nourrie de tous ces mythes, et je m'amuse énormément, en fait, à les revisiter un petit peu à ma sauce, à les adapter à mon histoire de manière, dans le monde moderne, au travers donc de mes personnages, et justement d'avoir aussi un personnage principal très contemporain et très ancré donc dans la vie actuelle, dans les réseaux sociaux, elle fait énormément de références à notre époque, aux séries qu'elle regarde, etc. Elle a vraiment des réflexions très très modernes pour le coup, et d'avoir ce contraste surtout dans le tome 2 avec cette société antique qui vit un petit peu caché dans cette cité qui est presque en dehors du temps. On croirait presque une faille un peu spatio-temporelle, on se croirait vraiment en antiquité. Justement, le fait que ce soit ce lieu-là, qui est justement proche de la nature et proche des mythes et proche ce côté un petit peu mystique, qui soit un peu leur lieu sûr, je trouvais ça intéressant, du coup, un petit peu en contraste avec ce côté très d'urbain, etc., qu'on retrouve dans beaucoup de romans d'urban fantasy. Justement, moi, ça se passe dans une petite ville au départ, et on retrouve un peu ce côté très cocon aussi, et rassurant de ces mythes qui sont millénaires, quoi, donc qui tiennent encore la route, même si c'est à faible, faible échelle, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéressait.
Il y a la mythologie, mais on n'a pas encore parlé des légendes urbaines, c'est-à-dire des légendes que génèrent les villes elles-mêmes. Non pas des mythes qui s'adaptent à la ville, mais les mythes développés par la ville aussi. Ça, c'est intéressant. Et dans American Gothic, mes deux personnages se rencontrent dans un orphelinat, c'est deux garçons, et ils vont se perdre de vue, se retrouver, et ils vont écrire un livre qui va être... perçu soit comme un livre heureux, un peu comme Winnie, soit au contraire, donc il fait l'unanimité, tout le monde l'aime, le Ku Klux Klan, les hippies, enfin un livre qui est l'âme de l'Amérique, et en même temps ce livre, donc dans le roman, va créer un tueur en série qui va suivre les aurores que en fait sont les contes pour enfants, qui va adapter les contes pour enfants à la réalité. Donc ça, c'est une partie. Et je me suis dit, mais il faudrait parler des légendes urbaines. Et j'ai pensé aux Black Carambars. On ne connaît pas les gens qui écrivent les Black Carambars. Et je me suis dit, tant qu'on y est, en plus de ce livre, ils vont inventer les Black Carambars. Mais ils vont se servir des Black Carambars comme du Yi-King, c'est-à-dire de tirages qui peuvent influencer votre vie. Et donc j'imagine des blagues nazes, hein, parce que les blagues carambars, ce n'est pas la haute volée de l'humour, mais qui sont prises au pied de la lettre et qui vont entraîner soit des aurores, soit des belles choses. Il y a les légendes urbaines.
Tim Powers travaille pas mal un peu comme ça.
Pardon ?
Tim Powers, il travaille un peu.
Bien sûr, bien sûr.
Non, c'était juste...
Alors justement, c'est vrai que la ville produit aujourd'hui ses propres mythes. Donc on a parlé des légendes urbaines. American Gothic tourne autour aussi d'une adaptation cinéma de ce fameux texte un peu, ce recueil de contes un peu qui façonne l'imaginaire de l'Amérique. Vous parlez de Ma sorcière bien-aimée. Mérope, je sais que vous citez Charmed parfois comme une influence ou en tout cas comme un manque en littérature en disant finalement... l'apprentie sorcière est un thème qui, dans l'imaginaire français, n'avait pas été tellement abordé et ça me manquait en tant que fan des sœurs Halliwell. Est-ce qu'aujourd'hui, la ville, alors bon, je pense à la ville de Los Angeles, mais bon, on peut dire que finalement, Marvel, aujourd'hui, c'est un producteur de mythes du même titre que Homer, quoi. Mais donc, est-ce qu'il y a un retour de balancier aujourd'hui la ville et la culture populaire fabriquent, alors du coup on partait de mythes très anciens pour arriver peut-être à des choses beaucoup plus modernes, mais produit aussi sa propre mythologie.
Oh dans les comics, plus que Marvel, c'est DC. C'est-à-dire que l'univers de DC Comics, il est vraiment organisé autour de villes. Comme s'il y avait des espèces... De la même manière que Athéna vivait à Athènes, Superman vit à Metropolis, Batman vit à Gotham City, Flash vit à Central City. Donc oui, il y a effectivement un imaginaire très récent qui est construit autour des villes.
Est-ce que vous, c'est des choses qui vous ont nourri ici dans l'écriture ? Enfin, je pense notamment à Charmed, mais vous aussi à Alison, est-ce qu'il y a des choses plus récentes ?
Oui, c'est sûr qu'au départ, je me suis dit... Charmed, c'est une série de mon adolescence. Je me suis dit, et si ça se passait en France, quoi ? Voilà, qu'est-ce que ça donnerait dans une ville française ? Donc cette jeune fille, elle revient, elle a le bac. À la différence de Charmed, elle n'a pas de sœur, donc il n'y a pas le pouvoir des trois. Elle n'apprend pas avec les autres. C'est ça qui me paraissait intéressant parce que ça lui posait problème. Elle a un grimoire, certes, aussi dans le grenier. Mais le grimoire, quand il estime qu'elle n'est pas prête à recevoir la formule magique, lui donne pas, quoi. Donc elle doit se débrouiller, faire avec les humeurs de son grimoire. Donc ça m'amusait aussi, cette relecture. Toute cette adaptation, effectivement, je trouvais ça intéressant. Ah, c'est quoi la culture française aujourd'hui ? Donc cette jeune hackeuse qui se débrouiller on essaye de cambrioler sa maison et elle, c'est par le hacking qu'elle va faire sonner tout ce qui est autour et pas par la magie au départ. Et après, effectivement, elle va réussir à s'en sortir par la magie. Mais voilà, oui, c'était Charmed, c'était une influence de départ.
Alors moi, dans mon influence, c'était vraiment pour le coup la mythologie grecque que j'avais envie de réadapter, un peu à ma sauce. Après, c'est vrai que mon personnage fait beaucoup de références à Charmed aussi. À un moment donné, par exemple, au départ, elle travaille dans une boutique ésotérique et elle n'y croit pas du tout. Et elle prend les gens pour... voilà, elle dit, bon, mais je vais voir sortir Buffy ou Phoebe Halliwell, enfin bref. Ou par exemple, à un moment donné, elle a une réflexion en disant bah, « c'est bien gentil, moi, le pouvoir que j'ai, j'aurais préféré recevoir ma lettre de Poudlard, ça aurait été beaucoup plus simple », enfin ce genre de choses. Après, voilà, moi, mon inspiration première, c'était quand même, de base, les histoires qu'on m'a lues quand j'étais petite, donc en l'occurrence, les mythes antiques.
Merci. J'ai perdu ma question suivante, mais je vais remettre la main dessus, évidemment. Non, c'était oui, effectivement, sur le côté... sur le fait qu'on parle quand même de fiction contemporaine. C'est Jacques Baudou qui disait que la fantaisie urbaine, c'était la seule forme de fantaisie qui permettait une critique sociale. Est-ce que vous, c'est des enjeux que vous avez aussi voulu mettre dans vos textes, de parler du monde d'aujourd'hui? Ou finalement, c'est un cadre comme un autre, et dans le fond, sur d'autres aspects, ça pourrait être de la fantaisie médiévale ou...
Alors moi, de mon côté, effectivement, il y a un côté critique sociale, mais qui ne va pas forcément parler au lecteur français, puisqu'il parle peut-être un peu de ce qui se passe à Hong Kong en ce moment. Je prends le principe qu'en fait, tous les êtres surnaturels chinois, donc qui vivaient dans toute la Chine pendant longtemps, la révolution culturelle a décidé de les chasser, en fait, puisque les anciennes religions n'ont plus leur place, un peu comme Staline a fait avec Baba Yaga et ce genre de choses, bah, Mao le fait aussi avec les dragons, etc. Et ces créatures se réfugient à Hong Kong, qui à l'époque est sous domination anglaise, donc c'est une ville encore libre, dont le chef c'est la reine d'Angleterre, quoi. Et c'est exactement ce qu'ont fait des millions de Chinois qui étaient chassés de leur terre, des paysans qui mouraient de faim, des choses comme ça, qui essayaient d'aller trouver un nouvel Eldorado à Hong Kong, à Taïwan également, pour reconstruire leur vie, pour trouver une place. Alors sachant que souvent c'était des gens très campagnards et qui arrivaient dans une ville qui était déjà dans les années 50-60, Hong Kong était déjà une métropole monstrueuse, mais elle l'est devenue encore plus quand il y a eu une seconde vague d'immigration dans les années 80. Cette population rurale était complètement perdue, alors comment ils trouvaient leur place? Mais en plus, imaginez si ce sont des êtres surnaturels qui ont du mal à côtoyer l'humanité, puisque en tant que créatures basées sur le yin, ils ont besoin de s'alimenter en yang, ça veut dire que c'est tous un peu des vampires d'énergie, qu'ils ont besoin, malgré eux, hein, des fois, en côtoyant les humains, ils aspirent leur énergie. Il y a plein d'histoires en Chine, hein, la femme renarde qui tombe amoureuse d'un jeune étudiant lettré et qui, à force de faire l'amour avec lui, finalement, le pauvre, il va s'étioler petit à petit pendant qu'elle elle se renforce. C'est pas volontaire, mais ça arrive. Du coup, l'exorciste borné arrive et décide de la tuer. C'est vraiment un conte très classique. Et si ça arrivait dans ce Hong Kong moderne. Donc oui, il y a un fond qui va nous parler un peu de la révolution culturelle, de comment concilier tout ça. Et du coup, les personnages de mon roman, donc le héros qui est un exorciste, mais pas au sens occidental du terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour tuer, chasser les créatures, il est là pour qu'elles trouvent leur place en harmonie. Ben, le taoïsme, c'est une sorte de recherche d'équilibre, pas d'excès d'yin, pas d'excès d'yang, il faut taper juste au milieu. Il va essayer, c'est-à-dire qu'il dit, oui, bah, ces créatures, si elles sont insérées, si cette femme renarde est barmaid la nuit dans un club, si elle paye ses impôts, qu'elle emmerde personne, bah, moi je lui fous la paix, quoi. Je me moque qu'elle soit, que ce soit une migrante, que ce soit une créature surnaturelle, du moment qu'elle garde sa place et qu'elle contribue utilement à la société, ce qui est quelque chose de très chinois aussi. Je vais pas l'embêter. Par contre, si y a un démon qui commence à céder à ses penchants et à enlever des enfants pour les dévorer, là, il va peut-être falloir que j'aille lui passer mon épée en bois à travers le corps, quoi. Donc, il y a effectivement un léger sous-texte social, hein, c'est pas un pamphlet, mais qui va parler de ça, qui va parler de cette acception de la différence. Hong Kong continue à connaître des vagues d'immigration, notamment depuis la Malaisie et les Philippines. Et pareil, ces gens-là ont des problèmes d'insertion puisqu'ils viennent de sociétés rurales un peu... un peu en retard par rapport à cette modernité, et ont beaucoup de mal, beaucoup tombent dans des réseaux de prostitution, sous l'emprise des triades. Donc c'est pas forcément facile pour eux. Et quand j'ai fait relire mon roman à des amis expatriés qui vivent à Hong Kong, pour le coup, ils ont saisi tout de suite ces problématiques. Mais un lecteur français, je pense qu'il... Enfin, ça lui passera au-dessus, et c'est pas du tout grave, hein, c'est pas utile. Mais oui, j'ai quand même tenu à parler de tout ça pour ancrer encore plus le roman dans la réalité actuelle du pays.
Alors moi, je ne parlerai pas de critique sociale, mais c'est vrai que dans le tome 2, en fait, il y a quand même un message, parce que c'est vraiment un roman que j'avais destiné aux ados. Mon héroïne, en fait, elle va faire un projet qui s'appelle le projet Port Propre. Et donc, il s'agit en fait de nettoyer, de voir quelles sont les pollutions qui touchent les zones portuaires. Et en fait, elle va vraiment le faire avec d'autres étudiants de façon non magique. Et ça, c'était pour dire aux jeunes, bah, vous n'avez pas besoin d'avoir des pouvoirs magiques pour faire des choses pour la nature. Voilà, ça, c'était un message, c'était le message que moi, je voulais faire passer.
Alors, moi non plus, je ne fais pas vraiment de critique sociale à travers, pour l'instant, mes deux premiers romans. Après, effectivement, je trouve que le fantastique, c'est aussi un moyen de parler d'autre chose que du fantastique, justement, de faire passer des messages. Et c'est ça qui est chouette, c'est vraiment un moyen un peu détourné aussi de parler de sujets graves et voilà, d'amener un petit peu le lecteur qui n'aurait peut-être pas pensé à ce sujet-là. Ben voilà, on va le sensibiliser d'une autre manière. Mais effectivement, moi, ça n'a pas du tout été au cœur de mon écriture pour l'instant. Enfin, peut-être à travers certains personnages, fait passer certains messages, mais c'est pas mon but premier en tout cas.
Je crois qu'on est arrivé au bout du temps. Juste une petite chose, je vous conseille la vision d'une série HBO en 10 épisodes qui s'appelle Sharp Objects, qui mêle de manière remarquable et tout en demi-teinte. Alors, Urban Fantasy, la ville est vraiment importante dans la série. Beatlit de manière très habile avec la légende de la Dame Blanche, ultra violence, difficilement soutenable. C'est une superbe série, Sharp Objects, 10 épisodes, magnifique.
Merci, on va terminer sur ce bon conseil. Merci à tous les quatre d'avoir été présents. Vous êtes tous en dédicace, j'imagine, et en conférence également, donc ne les manquez pas. Et merci à tous de votre présence. Merci à vous.